Nous lisons donc le psaume 123, un cantique des montées. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs se tournent vers la main de leur Seigneur, et les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Fais-nous grâce, Éternel, fais-nous grâce, car nous sommes par trop rassasiés de mépris. Notre âme est par trop rassasiée des moqueries des satisfaits, du mépris des hautains. Je vous invite à la prière. Au moment d'étudier ta parole, Seigneur, s'il te plaît, aide-nous. Aide-nous par ton esprit, le même esprit qui a inspiré et conduit les auteurs de ces textes. Que cet esprit-là, maintenant, nous conduise dans l'étude, la compréhension et l'application de ta parole. Amen. Alors voici ce qu'on peut lire dans un article récent du journal Le Monde. Je cite, c'est dans le journal du 27 décembre, le numéro du 27 décembre 2012. L'heure est bien aux tensions entre l'Église et le gouvernement. En 6 mois, la liste des désaccords et des prises de bec entre la gauche et les responsables religieux n'a fait que s'allonger. 2 points. Mariage pour tous, procréation médicale assistée, recherche sur l'embryon, réflexion sur le suicide assisté, réquisition des bâtiments vides, etc. Et l'ambiance ne devrait pas se détendre dans les prochains mois. Fin de citation. Alors ce constat, vous l'avez peut-être fait vous-même, si vous suivez un petit peu l'actualité. Pour citer un autre article du journal Le Monde, en fait, le même numéro, certains croyants, je cite, se sont sentis choqués, blessés, voire méprisés par le traitement qu'ont réservé les parlementaires aux représentants religieux lors de leur audition à l'Assemblée nationale le 29 novembre. L'audition qui avait rapport avec le projet de loi visant à ouvrir le mariage et l'adoption aux couples homosexuels. Je poursuis la citation. « Cet échange s'est transformé en une harangue contre les religions », déplore-t-on à la conférence des évêques de France. Des députés socialistes ont depuis reconnu que leurs collègues auraient pu être un peu plus courtois. Fin de citation. Et il y a 10 jours, Madame Michèle Delaunay, ministre déléguée aux personnes âgées, relaie un message ironique sur Internet. Je ne sais pas si vous avez suivi cette petite polémique. Un message ironique au sujet de l'opposition des chrétiens précisément à ce projet de loi, un message relativement moqueur qui, politiquement, n'aurait jamais pu avoir pour objet une autre religion que la religion chrétienne, à savoir les juifs ou les musulmans. Ça n'aurait jamais passé, mais avec les chrétiens, ça passe. Et moi-même, cette semaine, dans le cadre d'échanges que j'ai pu avoir avec des défenseurs de ce projet de loi, on m'a dit, je cite, que j'étais une tête de nœud, que mon discours était immonde, honteux et malhonnête, que les gens devaient se tirer de mon église qui crache sa moralité, et que je devais me tenir éloigné des gosses, car c'est plus sûr, et un peu plus loin, que plus les prêtres ou pasteurs sont jeunes, plus ce sont des terroristes de la morale et de la haine. Votre humble serviteur. Alors, pourquoi une telle introduction à mon message aujourd'hui? Parce que le texte qu'on vient de lire nous parle du mépris dont les croyants font couramment l'objet ici-bas, à titre individuel parfois, mais aussi à titre collectif, en tant qu'Église. Le mépris dont les croyants font couramment l'objet ici-bas. Et il est possible aujourd'hui que vous-même, en tant que croyant ou croyante, vous souffriez de ce regard qu'une partie du monde qui vous entoure porte sur vous. Peut-être même un regard que certaines personnes qui vous sont proches portent sur vous, comme des collègues, ou des camarades de fac, ou du lycée, ou du collège, ou peut-être des membres de votre propre famille, hein, des frères ou des sœurs, vos propres parents, et qui sait, peut-être vos propres enfants. Et comment faites-vous pour surmonter cette frustration, voire cette douleur, cette souffrance? Ou peut-être que vous êtes un croyant, mais qu'en fait vous n'avez jamais encore fait l'objet de moqueries en raison de votre foi. Et dans ce cas, écoutez ce que Jésus a dit à ses disciples. « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Alors comment est-ce que vous réagirez dans ce cas le jour venu où ça arrivera? Ou peut-être encore qu'aujourd'hui vous n'êtes pas croyant, peut-être pas un croyant, c'est possible, je ne vous connais pas tous. Et dans ce cas, qui sait? C'est peut-être vous qui avez du mépris dans votre cœur pour ces idiots de chrétiens, ces obscurantistes intolérants qui pensent détenir la vérité et qui veulent l'imposer aux autres. C'est peut-être vous, ça. C'est peut-être votre cœur. Quelle que soit notre situation, en tout cas aujourd'hui, quelle que soit notre situation, ce psaume nous adresse un message qui est relativement simple et qui est le suivant. Dieu prend la défense de ceux qui se savent indignes. Dieu prend la défense de ceux qui se savent indignes. Et pour nous adresser ce message, dans un premier temps, le psalmiste nous présente une posture, versets 1 et 2, une posture. Vous avez le plan très simple à l'intérieur du feuillet. Une posture, versets 1 et 2. Au verset 1 et 2, les deux premiers versets, donc logiquement, de son psaume, il reconnaît, le psalmiste, il reconnaît sa position devant Dieu, et il nous incite par conséquent à faire de même, c'est-à-dire à nous aussi à reconnaître notre position devant Dieu. Je veux que vous remarquiez une chose, en tout cas, dans ces deux premiers versets. C'est que dans ces deux premiers versets, dans la première moitié de son psaume, puisque c'est un psaume qui fait que quatre versets, dans la première moitié de son psaume, le psalmiste nous dit qu'il invoque Dieu, mais il ne nous dit pas encore pour quelle raison il invoque Dieu. Il ne nous dira pas la raison d'ailleurs avant le verset 3. Donc versets 1 et 2, dans un premier temps, le psalmiste se met dans une posture où il invoque Dieu, et on ne sait pas pourquoi encore. Et il y a dans ces deux versets deux analogies. La première qui place le psalmiste sur terre et Dieu comme juge dans les cieux, c'est ce qu'il dit verset 1, « Je lève mes yeux vers toi qui siège dans les cieux », première analogie. Deuxième analogie, il se décrit comme un simple serviteur dont Dieu est le maître. Il se compare à n'importe quel autre serviteur qui a les yeux fixés sur la main de son maître. Donc le psalmiste, vous voyez pendant deux versets ici, il est en train d'insister sur une idée toute simple, c'est qu'il est dans une posture de dépendance totale de Dieu, une posture de dépendance totale de Dieu, dépendance absolue, complète de Dieu. Alors il faut savoir que dans l'Antiquité, les maîtres avaient en principe tous les droits sur leurs esclaves, ils en étaient les propriétaires. Comme vous, vous avez tous les droits sur les objets qui remplissent votre maison. Si vous voulez casser la vaisselle chez vous, vous avez le droit, personne ne va vous en empêcher. Enfin, peut-être votre conjoint, je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'est à vous, vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez. Et donc, en principe, les maîtres avaient même un droit de vie et de mort sur les serviteurs qu'ils possédaient. Je dis bien en principe, parce que il n'y avait pas beaucoup de maîtres qui passaient leur temps à tuer leurs serviteurs par plaisir. Comme il n'y a pas grand monde ici qui casse sa vaisselle par plaisir, d'accord? C'est-à-dire que les esclaves étaient littéralement suspendus au bon vouloir de leur maître. L'image qu'on a ici, elle est double en fait, dans cette analogie avec le serviteur et le maître. C'est celle à la fois d'un esclave qui attend ses ordres de son maître, les yeux fixés, rivés sur la main de son maître, à attendre le moindre signe qui pourrait lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. Alors il est là, il se tient à disposition, prêt à agir en fonction de la volonté de son maître. Il a les yeux fixés sur sa main. Mais la main en hébreu peut aussi désigner ou sous-entendre la puissance, le pouvoir d'une personne. Et donc, le serviteur a aussi les yeux fixés sur la main de son maître, sachant que c'est lui qui a le pouvoir de faire quelque chose, le pouvoir d'intervenir peut-être, qui sait, de prendre sa défense. Ce que le psalmiste est en train de proclamer dans la première strophe de son psaume, la première moitié, c'est qu'il n'a en lui-même aucun droit. Est-ce qu'on peut imaginer ça aujourd'hui, nous, en France, en 2013, le fait de ne pas avoir de droit? On n'a pas de droit. Imaginez que nous soyons des citoyens d'un pays où nous n'ayons aucun droit. C'est difficile à imaginer, hein. À quoi ça ressemblerait si on vous destituait de tous vos droits? Imaginez un instant qu'on supprime juste pour vous les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On les supprime juste pour vous. 30 articles. Plus de droit à la protection, ni à l'éducation, ni au travail, ni au mariage, ni à la rémunération, ni à la sécurité sociale, ni à la liberté de réunion, d'opinion ou d'expression, ni à la liberté de pensée, de conscience ou de religion, ni à la propriété, ni à la nationalité, ni à l'asile, ni à la libre circulation, ni à la vie privée, ni au recours à la justice, ni à la reconnaissance de votre dignité, ni même à la vie. Supprimé. Voilà la posture du psalmiste dans les deux premiers versets de ce psaume. Il est en train de proclamer qu'il n'a aucun droit devant Dieu. Comme le serviteur, comme les yeux du serviteur, de l'esclave, sont fixés sur la main de son maître. Ainsi, ses yeux sont fixés sur Dieu, sur l'Éternel. Voilà la position que le psalmiste reconnaît avoir devant Dieu. Il est suspendu à son bon vouloir. Vous connaissez la devise des anarchistes, ni Dieu ni maître. Eh bien, la devise du psalmiste est diamétralement opposée. Un Dieu qui siège dans les cieux et un maître dont je suis absolument dépendant. Donc vous voyez que le psalmiste, avant même de nous dire pourquoi il invoque Dieu, d'abord il reconnaît sa position devant Dieu et par conséquent il nous incite à faire de même. Ainsi, et vous avez remarqué, il passe de la première personne du singulier à la première personne du pluriel. Je lève mes yeux vers toi, et puis à la fin du verset 2, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel. Il nous aspire un peu dans sa position, il fait de l'éducation, de la pédagogie, il veut nous inciter à faire comme lui. Nos yeux, à nous, les croyants, également, se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Alors, est-ce que vous vous considérez souvent comme étant l'esclave de Dieu? Ou est-ce que vous avez plutôt tendance à penser que vous avez des droits à faire valoir, y compris auprès de Dieu? Et quand quelqu'un se moque de vous, quand quelqu'un vous manifeste du mépris, quelle est votre réaction immédiate? Mépriser votre adversaire en retour? Ou bien reconnaître votre position devant votre maître céleste? Quelle est votre réaction immédiate? Quel est votre réflexe? Je ne vous avouerai pas quel est le mien. Encore une fois, je ne vous connais pas tous, je ne sais pas quelle est exactement votre relation personnelle à Dieu aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que la posture qui nous est présentée ici dans ces deux premiers versets du psaume, elle est appropriée à votre situation dans la mesure où vous êtes un être humain. Je ne vous connais pas, mais j'imagine que vous êtes tous des êtres humains, vous en avez l'air, et donc cette posture est appropriée pour vous, quelle que soit votre situation, parce que vous êtes un être humain, que vous soyez d'accord ou non. D'ailleurs, dorénavant, vous le savez, vous n'avez plus d'excuses en quittant ces lieux, vous le savez, vous l'aurez entendu au moins une fois dans votre vie, Dieu est maître. Il est l'Éternel qui siège dans les cieux, et vous êtes sa créature ici-bas. Combien il est important de reconnaître cette réalité, comme le fait le psalmiste, au moment où nous faisons l'objet du mépris de nos prochains, de nos congénères, des autres créatures qui sont comme nous, des autres êtres humains. Tiens, on se moque de moi. Non, mais pour qui ils se prennent? Ils se moquent de moi. Ils osent se moquer de moi. Alexandre, le grand. C'est pas croyable. Attends, c'est vrai. Je n'ai en réalité aucun mérite à faire valoir par moi-même. Dans ma nature d'être humain, je suis une créature entièrement redevable à mon Créateur, mais non seulement cela. Je suis une créature rebelle, souvent je suis indifférent à Dieu, je suis orgueilleux et autonome. Je vais donc lever les yeux vers celui qui est le juge suprême et le maître suprême. Je vais placer toutes mes attentes en lui, je ne vais surtout pas me la ramener, comme on dit, mais je vais voir si lui, l'Éternel qui siège dans les cieux, si lui daignera me faire grâce. Voilà ce que je vais faire. On se moque de moi, moi je tourne les yeux vers le Seigneur pour voir s'il daignera me faire grâce. Et c'est cette posture, vous voyez, que le psalmiste nous a clairement présentée dans un premier temps. Versets 1 et 2. Et c'est dans cette posture, en étant dans cette posture, que dans un deuxième temps, il nous présente cette fois sa plaidoirie. Il doit présenter sa posture, versets 1 et 2, il nous présente sa plaidoirie, versets 3 et 4. Et en effet, dans ces deux versets, 3 et 4, la deuxième strophe du psaume, si vous voulez, le psalmiste, cette fois, se met à plaider sa cause devant Dieu. Et encore une fois, en le faisant, il nous incite par conséquent à faire de même, nous aussi, à plaider notre cause devant Dieu. Et il y a dans cette plaidoirie une seule demande, qui est répétée à trois reprises, à la fin du verset 2, puis ensuite au verset 3. Fais-nous grâce. Ou bien peut-être dans votre traduction, vous avez « Aie pitié de nous ». Fais-nous grâce, aie pitié de nous. Vous avez vu l'insistance du psalmiste à la fin du verset 2, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce, point. Fais-nous grâce, Éternel, fais-nous grâce. C'est la seule demande du psaume. Et ensuite, il y a la justification de sa demande. Pourquoi? Eh bien, à cause du mépris et des moqueries de ses adversaires qui le font souffrir terriblement à l'intérieur. Car notre âme est par trop rassasiée du mépris des orgueilleux. En gros, le psalmiste est en train de dire ceci. Seigneur, au secours, j'en ai marre. Voilà. C'est simple, non? Mais ce que je voudrais qu'on remarque ici dans ces deux versets, c'est qu'après avoir insisté sur le fait qu'il était absolument... le psalmiste qui était absolument suspendu au bon vouloir de Dieu, après avoir insisté là-dessus, après avoir insisté sur le fait que Dieu était le juge et le maître suprême, et que lui-même, en tant qu'être humain, il n'avait rien à faire valoir, aucun droit à faire valoir auprès de son Dieu et maître, après avoir insisté sur le fait que lui, il n'avait aucune raison de la ramener, il n'était que comme un esclave dont les yeux étaient fixés sur la main de son maître, totalement dépendant. Malgré cela, verset 3, le psalmiste se permet de prendre la parole et de formuler avec insistance une requête et même de justifier sa demande. Fais-nous grâce, car le psaume aurait très bien pu se terminer au deuxième verset, non ? Et la leçon aurait été la suivante. Humilie-toi devant le Seigneur, reconnais qu'il est tout et que tu n'es rien, et boucle-la en espérant qu'il te vienne en aide un jour. Ça aurait pu se terminer à la fin du verset 2, c'est pas vrai ? Mais le fait que le psalmiste plaide quand même sa cause devant Dieu nous révèle quelque chose de très important. Et avant d'y venir, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de déposer une plainte devant les autorités ? Par exemple, d'aller au commissariat et de déposer une plainte, ou à la gendarmerie. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de faire cela ? Et si oui, est-ce que vous l'avez fait en pensant que votre plainte était injustifiée ? Ça m'étonnerait. Ou bien, est-ce que vous l'avez fait en pensant d'avance que vous seriez débouté par la justice ? C'est-à-dire en pensant d'avance que votre plainte ne serait pas recevable ? Je ne pense pas. Ça m'étonnerait que vous ayez fait ça. Ça n'aurait pas eu beaucoup de sens de vous déplacer au commissariat en étant convaincu d'avance que votre plainte n'était pas recevable. Non, ça m'étonnerait. En fait, on dépose plainte sur la base de ce qu'on sait en termes de droit et de justice, évidemment. On dépose plainte contre un cambrioleur parce qu'on sait que la loi punit le cambriolage et prévoit la défense du cambriolé. Logique, non ? Enfin, vous pouvez toujours demander à Jonathan pourquoi il a déposé plainte contre les gens qui ont cruellement cambriolé leur appartement ces derniers temps. Et dans des grands procès, les avocats des plaignants s'appuient toujours sur les dispositions du code civil ou du code pénal, bref, de la loi, pour plaider la cause de leurs clients. Et si les dispositions de la loi, telles qu'on les trouve dans le code civil ou le code pénal, étaient contraires aux intérêts du client, en tout cas à leur demande, ben leurs avocats n'essayeraient sans doute même pas de plaider leur cause. Ou alors ce serait des avocats assez nuls, quoi. Ce serait perdu d'avance. Je pense que ce qui explique la requête du psalmiste ici, cette plaidoirie, c'est évidemment le fait que lui aussi, il est convaincu de la légitimité de sa requête. Il invoque la grâce de Dieu, pour le dire autrement, il invoque la grâce de Dieu en étant convaincu que Dieu est un Dieu qui fait grâce. S'il ne le pensait pas, il ne lui aurait même pas demandé. Vous voyez ce que je veux dire ? Il invoque l'intervention de Dieu en sa faveur par rapport à ses adversaires en étant convaincu que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui intervient. C'est prévu dans le code civil, si j'ose dire. C'est-à-dire, en fait, dans le code de l'Alliance, dans la loi, dans la Bible, dans tout ce que Dieu a révélé à son peuple, c'est prévu, oui. Dieu fait grâce, oui, Dieu intervient. Le psalmiste ne présume pas qu'il mérite l'intervention de Dieu. Seigneur, interviens parce que franchement, je le mérite. Je m'appelle Alexandre le Grand. Tu devrais faire ça pour moi quand même. Le psalmiste ne présume pas qu'il mérite l'intervention de Dieu en sa faveur, mais il présume que Dieu est capable d'intervenir en sa faveur. Dieu en est capable, il ne le mérite pas, et c'est pas ce qu'il dit, mais il est convaincu que Dieu en est capable. Il ne présume pas qu'il est une meilleure personne que ses adversaires, il ne présume pas qu'il vaut mieux que les autres. Mais il présume que Dieu peut faire grâce à ceux qui s'humilient. Et il présume que Dieu peut exercer le jugement à l'encontre des orgueilleux. C'est ce qu'il présume. Et pourquoi il le présume ? Parce que Dieu lui a dit qu'il était comme ça. Et Dieu nous l'a dit aussi, à nous aussi, qu'il était comme ça. Qu'il est un Dieu capable de faire grâce. Un Dieu capable de juger. C'est le texte qu'on a lu tout à l'heure, notamment Exode 34, versets 6 et 7. L'Éternel Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Vous voyez ? C'est donc en connaissant le caractère du juge et en ayant conscience des termes de la loi que le juge applique, eh bien que le psalmiste plaide sa cause devant lui. Devant ce juge-là qui siège dans les cieux. Le psalmiste a donc de bonnes raisons de formuler cette plaidoirie au verset 3 et 4. Il en a Il a d'excellentes raisons de le faire. Mais ce texte nous incite à faire de même, c'est ce que je disais tout à l'heure encore. À plaider notre cause, nous aussi, devant Dieu, lorsque nous faisons l'objet des moqueries de nos prochains. Le texte ne nous invite pas à plaider nos droits, puisque nous n'en avons pas devant Dieu, mais à plaider l'alliance, à plaider la loi de Dieu, à plaider le caractère de Dieu. Quand nous disons, comme le psalmiste, « Fais-nous grâce !» c'est l'affirmation que Dieu est capable de faire grâce et qu'il en a parlé dans les textes qu'il a inspirés, qu'il a transmis à son peuple. Nous plaidons non pas nos droits, je mérite ta faveur, mais nous plaidons le caractère de Dieu. Seigneur, fais-nous grâce car tu es un Dieu de grâce. Nous plaidons son alliance. Et en raison de cette alliance, en raison de tout ce que Dieu nous a révélé dans la Bible, en raison de toutes les promesses qu'il a faites à son peuple au fil de l'histoire, nous savons que Dieu est disposé à faire grâce et à pardonner aux pécheurs que nous sommes dans la mesure où nous nous humilions, dans la mesure où nous lui confessons nos péchés, dans la mesure où nous reconnaissons que si pardon il y a, ce n'est pas en vertu de nos mérites, mais en vertu des mérites de Dieu, en son Fils Jésus-Christ. Dieu en personne, qui s'est fait homme, c'est ce qu'on a fêté à Noël, et qui a pris sur lui le jugement de tous ceux qui croient. Ça, on le sait. Dieu nous en a parlé dans son code pénal, si j'ose dire, dans les termes du livre de l'Alliance qu'est la Bible. On le sait, on peut en être certain parce que c'est écrit, c'est inspiré par Dieu le Saint-Esprit. Dieu nous fait grâce, donc. C'est-à-dire qu'il nous accorde sa faveur, une faveur imméritée. Mais est-ce qu'il nous délivre tout de suite des moqueries de nos adversaires ? Non. La grâce que Dieu fait aux humbles, par Jésus-Christ, non, aux humbles. Fais la liaison ou pas, Jonathan ? Ok, c'est pas grave. Ça va me perturber jusqu'à la fin. Non, mais... Dieu fait grâce aux humbles, par Jésus-Christ, et l'effet de cette grâce est immédiat. Non, pardon, la grâce est immédiate, mais ses effets ne sont pas immédiats. Ses effets définitifs sont futurs. La grâce est immédiate, mais les effets ultimes et définitifs de cette grâce sont futurs. Comme le dit l'apôtre Paul, Dieu a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice. Et ça aussi, c'est une promesse de Dieu contenue dans la Bible. Le jour vient donc où les humbles, c'est-à-dire les croyants, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle et leur besoin d'être sauvés, les croyants, ce jour-là, seront définitivement délivrés du mépris, des moqueries, du dédain, des hautains, mais aussi de l'injustice, de toute injustice, de toute souffrance, du mal et même de la mort. Et donc, quand aujourd'hui, comme le psalmiste nous interpellons Dieu et on lui dit « Fais-nous grâce, interviens en notre faveur. » Cette requête-là, qui émane du plus profond de notre être, c'est une requête légitime. Ce n'est pas une requête infondée, comme si on ne savait pas si Dieu était capable de faire grâce. Elle est fondée, Dieu est capable. Mais ce n'est pas non plus une requête présomptueuse. « Fais-moi grâce parce que je le mérite. » C'est une requête ancrée dans le caractère de Dieu et dans ses promesses. D'accord ? Vous avez suivi ? Dieu fait grâce par Jésus-Christ. On le sait. C'est écrit. Et un jour, il va aussi juger les moqueurs par Jésus-Christ. On le sait parce que c'est écrit. Et merci Seigneur du fait que c'est écrit. Donc vous comprenez pourquoi je disais en introduction que le message de ce psaume était relativement simple et que c'était le suivant. Dieu prend la défense de ceux qui se savent indignes. Dieu prend la défense de ceux qui se savent indignes. Ici-bas, les croyants font l'objet de beaucoup de moqueries et de mépris, et vous en savez peut-être quelque chose aujourd'hui. Même nos autorités, comme je le disais en introduction, même nos autorités dans notre pays, aujourd'hui, font preuve de moins en moins de sympathie à l'égard des chrétiens. L'opinion générale, la pensée dominante dans les médias, il suffit de regarder la télé deux jours de suite et vous en pourrez le constater. L'opinion générale représente souvent les chrétiens, et tout particulièrement ceux qui croient à la Bible, comme des arriérés, des réactionnaires obtus, des obscurantistes stupides et dangereux, parfois même comme des racistes, des misogynes, des fascistes et même des terroristes. Ouais, c'est ça la pensée dominante, bien souvent, à l'égard des chrétiens qui croient à la Bible. Comment réagir donc? D'abord en maintenant une bonne posture. Nous ne sommes pas dignes, par nature, d'être aimés ou respectés. Nous sommes les esclaves sans mérite de notre Créateur, suspendus à son bon vouloir. Nous n'avons pas de raison de penser que nous valons mieux que nos adversaires, qu'ils se moquent. Mais au lieu de nous moquer en retour, nous allons nous humilier devant Dieu. Heureux les pauvres en esprit, a dit Jésus, c'est-à-dire heureux ceux qui sont humbles et contrits. Mais ensuite, en gardant cette posture, la bonne posture, nous allons plaider notre cause. Mais on ne va pas la plaider auprès des hommes. Mais on va la plaider auprès de Dieu. Et on ne va pas la plaider sur la base de qui nous sommes ou de ce que nous méritons. Mais on va la plaider sur la base de qui Dieu est et de ce que Dieu a promis. Nous allons donc, si j'ose dire, nous plaindre. Oui, nous plaindre auprès de Dieu, comme le fait le psalmiste. Nous allons nous plaindre auprès de Dieu, d'abord parce qu'il nous invite à épancher notre cœur en sa présence, comme on l'a déjà dit, notamment quand on étudie le psaume 120, mais c'est dit dans d'autres psaumes. Dieu nous invite à épancher notre cœur en sa présence, à lui dire ce qu'on ressent, bref, à nous plaindre. On va le faire pour ça, mais on va aussi le faire parce que nous savons qu'il est effectivement un Dieu qui à la fois fait grâce et juge. Il fait grâce aux humbles et il juge les orgueilleux. Et en Jésus, il a pitié de ceux qui se savent indignes et qui se repentent et qui croient. Et il nous délivrera de toute injustice et de toute souffrance. Et par Jésus aussi, il va un jour, et ce sera le jour de notre délivrance ultime, mais ce jour-là, par Jésus-Christ, il va aussi juger ceux qui, au contraire, plutôt que de se savoir indignes, ceux qui se croient dignes et qui s'obstinent dans leur orgueil et dans leur suffisance devant le Seigneur. Heureux donc les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est ça que dit Jésus. Je vous invite à prier. Merci pour ta parole, Seigneur, et s'il te plaît, en ayant entendu ce message que tu nous as adressé, nous prions que tu nous aides à garder la bonne posture et à t'adresser humblement nos plaintes, nos complaintes parfois, lorsque nous faisons l'objet du mépris ou des moqueries de nos prochains. Aide-nous, Seigneur, à être comme le psalmiste, à garder nos yeux fixés sur toi, sachant que nous sommes suspendus à ton bon vouloir. Au nom de Jésus. Amen.